Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul nous donne une interprétation allégorique d'un événement de l'Ancien Testament. Vous le savez, le patriarche Abraham était marié à Sarah et déjà à un âge avancé, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc, selon la pratique de l'époque, autorisée par Dieu, cela ne l'est plus aujourd'hui, hein, il est bon quand même de le rappeler, notamment contre le protestantisme, contre l'islam et autres, Sarah a permis à Abraham d'épouser comme deuxième épouse sa servante Agar. Cette servante Agar lui a donné un fils Ismaël. Sauf que ce fils, ce n'était pas le fils de la promesse. Dieu avait promis à Abraham un fils, mais c'était un fils de son épouse, la première épouse, c'est-à-dire Sarah. On pourrait s'étaler hein, sur un certain manque de confiance finalement dans le bon Dieu par rapport à ça, mais Dieu a permis cela pour nous donner un exemple allégorique, comme le fait remarquer l'apôtre Saint Paul. Sarah finit donc par avoir un fils, Isaac, et ses deux enfants grandissent, et Ismaël, le fils de la servante, n'est pas très gentil avec Isaac, il le moleste, et au final, Abraham est obligé de se séparer de cette servante et de son fils, de les envoyer dans le désert, bon, avec la subsistance minimale nécessaire, mais il est obligé de faire cela. Ces événements, bien sûr, et je le répète à chaque fois, même s'ils ont une valeur allégorique, qui ici nous est donnée par Saint Paul lui-même, ces événements sont des événements réels. La Bible, ce n'est pas une collection de mythes. Ce sont des événements que nous devons considérer comme réels. Il y a bien eu, Abraham a bien existé, il a bien eu une épouse appelée Sarah, il a bien eu une servante appelée Agar, qui a eu un fils Ismaël, la mère du peuple, le père, pardon, du peuple arabe, les Ismaélites, hein, qui s'adonnaient en particulier, comme on l'a vu cette semaine dans l'histoire de Joseph, du patriarche Joseph qui s'adonnait au trafic d'esclaves déjà à cette époque. Enfin bref. Donc on a des événements réels, mais ces événements ont une signification allégorique spirituelle. Agar, la servante, eh bien signifie la servitude. Sarah, l'épouse, et Sarah signifie reine ou princesse, et la liberté. De même, nous avons la Jérusalem terrestre et nous avons la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, à savoir la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, qui trouvera son achèvement définitif dans la Jérusalem de céleste, totalement bien sûr, c'est-à-dire lorsque nous serons au ciel, et là encore, l'achèvement définitif, ce sera à la fin du monde. De même, nous avons la synagogue et nous avons l'Église. La synagogue qui va persécuter l'Église dès le commencement, dès notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous avons la chair qui va combattre contre l'Esprit. Là encore, c'est Saint Paul qui nous le dit. Donc, nous avons cette dualité et nous avons ce combat spirituel entre la servitude ou une mauvaise liberté et la vraie liberté. Parce que finalement, Agar, avec son fils Ismaël, eh bien, elle finit complètement libre. Elle n'est plus esclave. Elle n'est plus la servante de Sarah, d'Abraham. Ils sont apparemment libres, sauf que cette liberté n'est pas une véritable liberté. La Jérusalem terrestre, elle paraît magnifique, superbe, celle du temps de notre Seigneur, avec un temple rutilant, tout reconstruit. Cependant, tout cela sera détruit par les Romains. La synagogue, elle paraît aussi quelque chose de bien, fidèle à Dieu. Pas toujours sur toute l'histoire du peuple hébreu, mais à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, la synagogue, les prêtres, et les pharisiens et le peuple en général étaient fidèles au commandement de Moïse, donc au commandement de Dieu, et avaient une pratique qui était une bonne pratique. Mais cependant, c'était insuffisant parce que la synagogue était une réalité transitoire. Ce qui était promis, ce n'était pas la synagogue. Ce qui était promis, c'était notre Seigneur Jésus-Christ et donc l'Église. De même, la chair a certaines nécessités, bien entendu. Nous avons des besoins corporels, des besoins extérieurs, et ces besoins sont des biens pour nous en tant que tels, mais si on s'y arrête, ils nous mènent à une certaine servitude. Et donc, nous avons la chair et nous avons l'esprit. C'est ça que nous allons considérer en particulier. Nous avons la chair qui est représentée par Agar, par Ismaël. La chair qui est une forme aussi de servitude. Pourquoi ? Eh bien parce que les biens corporels en particulier, les biens extérieurs qui sont censés être ordonnés aux biens corporels, même les biens temporels, spirituels, parce qu'il y a des biens temporels d'ordre spirituel, comme l'honneur, la considération des autres, la place dans la société, tout ça, ce sont des biens qui ont une valeur spirituelle, et la bonne renommée, tout ça, ça reste temporel. Pourtant, ça fait partie de notre vie de tous les jours, et nous pouvons y voir des servitudes. Nous avons besoin de manger, de boire et de dormir. Par contre, ces besoins, on ne doit pas les transformer en esclavage, dans ce sens que si notre vie se limite à manger, à boire, à dormir et à d'autres activités pour le plaisir de notre corps, il est évident que nous sommes ordonnés à des biens qui sont des biens matériels et des biens qui ne nous rendent pas libres en réalité. Parce que celui qui ordonne sa vie selon la chair, eh bien, il finit esclave de la chair. Celui qui ordonne sa vie selon ses passions charnelles, il en demande toujours plus. Et il finit esclave de ses passions charnelles. Celui qui recherche principalement les biens extérieurs, les richesses, celui-ci aussi se rend esclave de cette vie temporelle. On veut un meilleur emploi, mieux, toujours mieux rémunéré. On veut toujours plus d'argent, mais on est donc esclave de ce monde et de ses biens temporels. De même, les biens temporels, spirituels, l'honneur, la réputation, la bonne renommée, Combien nous sommes attentifs, voire esclaves, à ce que les autres peuvent penser de nous. C'est ça, en fait, la renommée. Et c'est un bien spirituel. Et c'est un mal de penser du mal des autres, comme nous le savons. Surtout quand il n'y a absolument aucune raison précise, valable. Ça s'appelle du jugement téméraire, du soupçon téméraire. Donc, nous devons faire attention à ne pas non plus être esclaves, même par rapport à nous, de ce que les autres peuvent penser de nous. Mais c'est naturel et aussi, nous avons un droit, chacun d'entre nous, effectivement, à notre fama en latin, notre bonne réputation. Chacun d'entre nous, selon sa position dans la société, a droit à aussi à ce bien temporel qu'on appelle l'honneur. Les parents ont un droit naturel à être honorés par leurs enfants. Les prêtres ont un droit à être honorés par les fidèles, etc. Les hommes politiques, en tant que tels, aussi, ont droit à l'honneur. Parce que, comme le dit l'apôtre Saint-Pierre, toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est une réalité, mais du point de vue personnel, nous ne devons pas en être esclaves et être obsédés par notre propre réputation ou l'égard que les autres peuvent avoir de nous. Tous ces biens sont des biens réels. Les biens extérieurs, les richesses, sont nécessaires d'une certaine manière à notre vie. Et les biens corporels sont aussi des bonnes choses, tant que ces biens, évidemment, sont ordonnés. Les biens, je viens de vous le dire, les biens temporels spirituels sont aussi de véritables biens. Cependant, ils réclament autre chose. Ils réclament d'être ordonnés vers un bien supérieur. Et si on est enfermé dans ces biens et qu'on en fait une fin en soi, c'est là qu'on en devient esclave. C'est là que nous suivons plutôt la chair que l'esprit. C'est ça que veut nous dire la Sainte Église à travers cette épître de Saint Paul. Donc, pour vivre selon l'esprit et non selon la chair, il faut se tourner d'abord et avant tout vers les vrais biens. Les vrais biens, c'est Dieu. Voilà. Notre liberté, puisqu'il s'agit d'elle, comme le rappelle Saint Paul, notre liberté qui est une faculté proprement humaine, une faculté rationnelle. Notre liberté, elle est ordonnée vers le bien. Le but de la liberté, c'est le bien. Le but de la volonté, c'est le bien. Le problème va être de se tourner vers les véritables biens. Le problème va être d'ordonner les différents biens. Si, comme nous l'avons vu, nous mettons en avant d'abord les biens extérieurs, les richesses, etc., les possessions de ce monde, est-ce que ce sont les vrais biens? Est-ce qu'ils nous comblent? Non. En pratique, nous en sommes esclaves. Les biens corporels, c'est pareil. Les biens corporels, notamment le bien de la santé, par exemple, nécessairement, ce bien décline au cours de notre vie. C'est comme ça, parce que nous sommes faits de chair. Donc, c'est la même chose. Même le bien des honneurs, de la bonne renommée, tout ça, ça reste très aléatoire. Quoi que nous fassions, même si nous sommes les personnes les plus vertueuses du monde, les plus gentilles du monde, il y aura toujours des personnes pour nous envier, pour dire du mal, pour vouloir du mal. Donc, là aussi, ce n'est pas le bien en tant que tel. Le seul bien qui puisse nous combler, c'est notre fin ultime. Le seul qui peut avoir valeur de fin ultime, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la conclusion de saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Le bonheur de l'homme ne peut consister que dans Dieu seul. Donc le bien de l'homme, le bien absolu, ne peut consister qu'en Dieu seul. Parce que Dieu est le bien en tant que tel, tout simplement. Dieu étant l'être par excellence, il est le bien par excellence. S'il est le bien par excellence, il est nécessairement l'objet parfait de notre liberté, de notre volonté. Mais notre liberté, elle peut se détourner de ce bien. Notre liberté, elle peut mettre en avant d'autres biens qui restent des biens inférieurs. Elle peut renverser l'ordre, malheureusement. Mais c'est pas ça le but de notre liberté. Elle peut le faire, effectivement. Mais c'est un mauvais usage. Parce que, en réalité, elle ne sera pas conforme à ce pourquoi elle est faite. Notre liberté n'est pas faite pour des biens temporels, pour des biens matériels, même pour les biens du corps, même pour les biens temporels d'ordre spirituel. Ils sont inadéquats, ils ne comblent pas notre liberté. Par conséquent, les mettre en premier lieu, c'est forcément un mauvais usage de notre liberté. Le bon usage de notre liberté, c'est de nous ordonner vers Dieu. Et donc de prendre les moyens pour aller à Dieu. Les moyens principaux pour aller à Dieu, les sacrements, la prière, la vie vertueuse selon les commandements de Dieu, et donc les actes de vertu, c'est tout cela qui nous ordonne vers le vrai bien. Et donc nous voyons que les biens temporels, les biens du corps, les biens extérieurs, tout cela aura tendance à être un obstacle à notre vie spirituelle, aura tendance à s'opposer parce que il y a le péché originel, parce que notre liberté effectivement subit ses conséquences du péché originel, parce que notre chair a tendance à combattre contre l'esprit, comme Ismaël, le fils de la servante, a molesté le fils de la femme libre de l'épouse, c'est-à-dire Isaac. Donc, voilà la leçon que nous donne ici l'apôtre saint Paul. Voilà la leçon que nous donne ici aussi la Sainte Église. Nous venons de passer la mi-carême. Le carême est beaucoup moins rigoureux qu'il ne l'était autrefois au niveau des pénitences corporelles. Mais l'Église s'acharne, si j'ose dire, s'échine à nous rappeler quand même cette réalité, à savoir que la chair, il faut la mettre à sa place. Le désir des biens extérieurs, des biens du corps, des biens même temporels, spirituels, il faut savoir les remettre à leur place. Et donc, Abraham est obligé de chasser la servante avec son fils. Par conséquent, nous devons chasser, quand cela est nécessaire, les désirs des biens terrestres. Nous devons chasser, quand cela est nécessaire, les désirs de notre propre corps. Nous devons chasser, quand cela est nécessaire et que cela s'oppose, que cela vient molester notre vie spirituelle, nous devons aussi chasser même ces désirs de la considération des hommes et ces honneurs d'ordre temporel, même si nous estimons parfois les mériter. Voilà donc ce que nous devons apprendre aujourd'hui et ce à quoi nous devons nous appliquer pendant ce qui nous reste maintenant de carême, c'est-à-dire peu de choses, peu de jours, peu de semaines. Nous devons nous appliquer à vivre davantage selon l'Esprit. Nous devons nous appliquer à pratiquer non pas cette liberté qui est une licence, cette liberté de tout faire, ce qui nous plaît, ce qui satisfait nos désirs, ce qui satisfait nos envies. La liberté, ce n'est pas cela. Notre liberté, c'est celle qui nous vient du Christ, qui nous a libérés justement en s'attachant à la croix. Cette liberté, c'est la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté, c'est cette faculté de s'ordonner vers le bien. Donc, nous devons nous détourner de tout ce qui nous détourne du vrai bien. Nous devons nous détourner de tout ce qui nous détournerait de Dieu, des biens spirituels, des sacrements. Il sera bientôt temps de nous rappeler le devoir pascal. Et par conséquent, chacun d'entre nous peut être posé devant cette réalité de la confession, de la communion. Ce sont les moyens nécessaires. Donc, les obstacles, il faut les chasser. Il faut faire l'effort. Et ce sera une vraie liberté, une vraie libération. Nous devons nous libérer de nos mauvaises habitudes pour pratiquer les commandements de Dieu, pratiquer les vertus chrétiennes. Et là, nous aurons déjà un pied dans la Jérusalem que nous célébrons aujourd'hui. Nous aurons déjà un pied dans cette Jérusalem céleste. Nous aurons déjà un pied dans la béatitude éternelle parce que nous y serons ordonnés. Mais c'est un travail permanent. C'est notre chemin ici-bas. Il s'agit pour nous de porter notre croix. Il s'agit pour nous de combattre cette chair jusqu'à la fin. C'est là encore tout l'enseignement de l'apôtre saint Paul. Et c'est ce que disait saint François de Sales. Il rappelle que le combat spirituel est un combat jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort, nous devrons combattre ce vieil homme. Nous devrons chasser Agar et Ismaël dans le désert. Jusqu'à notre mort, le vieil homme nous accompagnera. Donc, demandons non pas d'être totalement débarrassés de lui, ce n'est pas possible ici-bas. Demandons à Dieu de nous mettre dans la bonne voie, de nous donner la force à chaque fois que nous sommes confrontés à ces choix, de faire le choix de Dieu, de faire le choix du bien divin, de laisser de côté les biens extérieurs, les biens de notre corps, les biens spirituels, même temporels, pour choisir Dieu. Et c'est là la vraie liberté par laquelle le Christ nous a libérés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.